Nous avons parlé la semaine dernière sur la tentation de Jésus-Christ, où nous retrouvons nos tentations aussi, où nous les comprenons. Car la tentation, c'est le lot de chaque jour, c'est le lot de la vie. Nous ne sommes pas encore au ciel. Et sur la terre, nous devons nous dire, nous déterminer. Et on se détermine au moment de la tentation. Je voudrais vous parler maintenant de l'épreuve. À travers l'épître de Jacques. Tentation, épreuve, c'est le même mot. Je pense que toute épreuve peut être une tentation d'arrêter, de murmurer, de se révolter. Et toute tentation, c'est une épreuve aussi pour la foi. Nous allons donc prendre Épître de Jacques au chapitre 1er, verset 1er. Jacques, qui était non pas l'apôtre, puisque l'apôtre Jacques a été massacré par Hérode, vous le savez. C'est un mystère quand même que le Seigneur ait appelé un apôtre pour quelques mois. Mais rassurez-vous, son nom était gravé sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, on a une double vocation. On a la vocation terrestre, qui peut durer plus ou moins longtemps. Et au même moment, en même temps, on a une vocation céleste qui, elle, va durer longtemps. Je travaille toujours sur les deux vocations à la fois, vous aussi. Eh bien, regardons ensemble Jacques chapitre 1er, verset 1er. Jacques est donc, oui, j'ai pas fini ma phrase, le frère de Jésus. C'est le pasteur de l'église de Jérusalem. Ce frère qui, au début, ne croyait pas. Et ensuite s'est converti, on le trouve dans la chambre haute. Il est considéré comme une colonne de l'église de Jérusalem. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Bénis cette parole, Seigneur, et que nos cœurs soient inspirés pour bien conduire nos vies de manière agréable en tout temps et en toutes circonstances, au nom de Jésus. Amen. Comment faire face à toutes les épreuves que nous traversons tous ? Les temps ne s'arrangent pas. Je pense que nous sommes appelés à vivre des temps très difficiles qui toucheront certainement nos familles, nos maisons, l'Église, notre travail, nos consciences aussi. Comment faire face ? Je ne vois pas dans les Écritures des promesses de délivrance. Les prophètes ont traversé aussi des temps difficiles, les apôtres aussi. Je ne vois pas dans les Écritures des moyens d'éviter la terre avec ses souffrances, ses épreuves. Mais j'ai écouté ce matin avec vous en lisant une parole de Dieu pour les jours d'épreuve. Regardez les épreuves comme un sujet de joie. Pas facile. Donc il y a une parole de Dieu pour bien traverser les épreuves. Regardez-les comme un sujet de joie. Oui, dans nos épreuves, il y a un sujet de se réjouir. Pas dans l'épreuve elle-même, parce que quand on souffre, quand on a mal au cœur, dans sa conscience, on a vraiment mal. Mais le sujet de joie, c'est que nous vivons cela avec Dieu. Dieu pèse toutes choses. Dieu mesure. Aucune épreuve, aucune tentation ne dépassera vos forces. Donc nous sommes dans une expérience avec Dieu. On n'est pas en train de se débattre dans la mare, tout seul, dans nos épreuves, on est vraiment face à Dieu, dans les mains de Dieu. Amen. C'est un sujet de se réjouir quand même. Et puis, si nous traversons des épreuves avec cette confiance que Dieu est là, notre foi va produire la patience. C'est-à-dire de l'endurance, de la persévérance, de la fidélité, une attente tranquille d'un secours de Dieu qui ne manquera pas d'intervenir à son heure, que Dieu soit glorifié. Et il faut se réjouir que l'épreuve produit cette fleur de la vie chrétienne. Un peu dévalorisé dans notre temps où on aime bien ce qui est visible et fort et olympique. Cette fleur de la vie chrétienne, la patience. La patience, c'est le caractère du chrétien adulte, mûr. La patience permet de porter beaucoup, de faire de belles choses, sans se décourager. La patience permet à Dieu de poser sur nos épaules beaucoup de choses. Il y en a avec une plume, il s'écroule. Puis d'autres, ben, ils portent les portes de Gaza comme Samson. Donc, voyez-vous, la foi dans les difficultés de la vie ne produit pas obligatoirement la délivrance des épreuves. On pourrait le penser, on pourrait dire, avec ma foi, je vais m'en sortir. Pas du tout. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous en sortir, mais je veux dire, la foi ne produit pas obligatoirement la délivrance de nos difficultés. Mais la foi produit dans l'épreuve le plus beau produit de la foi, l'une des plus belles qualités de Dieu, du chrétien, la patience. Moïse était excellent dans la patience. Champion du monde, toute catégorie. Paul, quand il se présente à l'église, il ne dit pas « Regardez-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Il dit « Nous nous recommandons par la patience ». C'est la première qualité, la premier signe, première preuve de l'apostolat. Capacité d'attendre, capacité de continuer sous les coups et sous les tempêtes. Donc voyez-vous, l'apôtre Jacques, enfin l'apôtre, le pasteur Jacques, il nous dit bien qu'en fait la foi toute seule, elle n'est pas suffisante. Il faut la foi et les œuvres. Il faut la foi et la patience. Il faut la foi et l'amour. Tu dis que tu as la foi, mais montre-moi ta foi. Eh bien la foi, ça se montre par la patience, par les œuvres, par l'amour. Voilà dans les épreuves. C'est un peu dur à dire parce que j'aime pas ça, mais l'épreuve est nécessaire comme la tentation, nous l'avons dit la semaine dernière. Parce que dans les épreuves, eh bien, on vérifie aussi soi-même l'authenticité de sa foi. Si au moindre froid, blom, on est par terre, il n'y a plus personne. Comme un jour, elle m'avait dit une dame, j'ai jeté ma Bible dans la poubelle parce que j'étais en colère. Elle la récupère après. Alors, l'épreuve permet de regarder où nous en sommes par rapport à Dieu aussi. Hein. Et puis, l'épreuve purifie la foi parce que on s'attache à Dieu, on laisse les choses dérisoires, secondaires, pour s'attacher sans distraction, très fortement, au Seigneur. Seigneur, je te fais confiance, je t'appelle, je t'attends, je t'écoute, je ne bouge pas. Il y a une purification de la foi. C'est important, l'épreuve. Hein. Donc, il ne faut pas entrer dans un temps d'épreuve, nous y entrons tous, un jour ou l'autre, avec la seule pensée, être délivré sur le champ, parce que sinon, je ne comprendrai plus rien. Voilà ce que parfois maudit les gens. Sinon, je ne comprendrai plus rien. Ben, écoutez, mes amis, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Parce que faut pas oublier que l'épreuve, elle a pour but de produire en vous des qualités. Des qualités éternelles. Des qualités qui font la lumière de l'Église. Donc il ne faut pas oublier, faut pas mépriser les éprouvés en disant oh là, qu'est-ce qu'ils ont fait, bon, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont rien, mais par rapport à nous qui sommes champions, faut pas les négliger, les mépriser, parce que les éprouvés peuvent être de belles âmes, patientes, fidèles à Dieu, qui sont plongées dans les psaumes et qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit, parce que quand ça ne va pas la nuit, on ne dort pas. Ce sont des belles âmes. Je ne sais pas ce qui vous paraît le mieux. Les 9 lépreux qui ont été guéris par Jésus et qui disent « Youpi, nous sommes guéris, la vie est belle. Profitons-en. » On les a jamais revus. Ou si vous préférez Job, je ne cherche pas à le limiter, hein. Mais qui dit dans sa souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera sur la terre et mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mes yeux le verront. Amen. Alors voyez-vous, en méditant sur ce thème-là, je me dis, nous ne devons pas faire de la santé ou de la réussite un critère chrétien, en disant je suis en bonne santé, c'est signe que je suis chrétien. Je réussis, c'est un bon signe que Dieu vraiment me bénit par rapport à vous. Là. La santé et la réussite ne sont pas le seul témoignage à présenter au monde. Amen. Vous auriez vu Jérémie, vous auriez dit, je ne sais pas ce qu'il a fait comme mal. C'est un... Il est complètement réprouvé, mais vous l'auriez vu. Vous auriez vu Job, Daniel, etc. On aurait pu dire, mais ces gens-là ne sont pas dans la note par rapport à nous, alléluia. Il y a des éprouvés de la vie qui, en silence, produisent, je le répète, pardonnez-moi de me répéter, peut-être l'un des plus beaux fleurons de la vie sainte, qui est la patience, la persévérance, l'humilité. Je pense que ça, ce sont des qualités éternelles. Donc, on regarde mieux les épreuves de la vie. Faut bien les regarder mieux. Nous n'en sommes pas tous délivrés. Mais ceux qui sont éprouvés, il faut les assister, ces frères et sœurs. Il faut les aider pour qu'ils produisent la patience. Jacques, il le dit dans son épître, il dit « Visitez les orphelins. Visitez les veuves dans leurs afflictions, pour ne pas qu'ils se découragent en disant « Mais Dieu m'a abandonné. » Mais qu'au contraire, ils puissent dire « Bon, je suis mal, mais le Seigneur est avec moi. Je ne manquerai de rien. » Que peuvent me faire les hommes ? Voilà, il faut assister, il faut aider les gens, les frères et sœurs, à produire la patience. Et Jacques, il finit son épître avec un enseignement sur la patience dans les épreuves. Prenez pour modèle, dit Jacques, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé. Et vous, il ne met pas en modèle devant l'Église, il ne met pas que des champions, si ce sont des champions de la foi, pardonnez-moi, mais il ne met pas que des athlètes forts, riches et beaux de la foi, mais il met devant l'Église de Jérusalem, et puis toutes les églises, parce qu'il dit tous ceux qui sont dans la dispersion, là tous les juifs partis, chrétiens, il dit « Je vous présente comme modèle les prophètes qui ont parlé, dont un nommé Job, je vous les présente comme des modèles de patience dans les souffrances. » Regardez mieux vos épreuves. Amen. Les épreuves, c'est l'école où nous apprenons beaucoup de Dieu. Pas seulement le fait de traverser l'épreuve, parce qu'on peut être dans une épreuve et puis tempêter, respecter, ne pas être content, ne plus venir à l'église, ne plus prier. Non, je veux dire des épreuves où l'on se tient devant Dieu. Où l'on dit, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, comment je vais m'en sortir, mais je regarde à toi, mes yeux sont sur toi et j'attends ta délivrance. Amen. Ça, c'est là. Ça, c'est la bonne attitude. Mais, Jacques dit, il faut que l'épreuve, que la patience, pardon, accomplisse parfaitement son œuvre. Parce que la patience, ce n'est pas seulement traverser un passage douloureux, difficile, sans murmurer, c'est beau, sans découragement. La patience, elle va faire beaucoup plus que ça. Elle va nous apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. J'ai déjà vu des chrétiens, au début, tempêter un peu, puis à la fin dire, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais je m'en remets à la volonté du Seigneur. Que Dieu fasse sa volonté. Amen. Voilà. Donc il faut que cette patience, elle grandisse. Une patience qui dure 2 minutes, ce n'est pas beaucoup de patience. La patience, c'est éternel. Et cette patience qui va se développer, il faut qu'elle se développe pour les autres temps de la vie. Parce que cette patience, quand on aura passé cette épreuve un peu difficile de santé, là, avec les enfants ou dans le travail, demain, on aura d'autres mauvais jours. Mais on aura développé en nous la patience. Fortifiez-vous pour le mauvais jour. La patience ne va pas servir seulement un temps, mais elle va nous servir à traverser les âges de la vieillesse, les âges où nous sommes arrivés parfois avec des grands enfants qui sont très difficiles, à traverser les âges où nous sommes en inquiétude par rapport à notre travail, ayant atteint toujours la limite d'âge. sommes appelés à avoir de la patience pour les temps où nous sommes bousculés par les moqueries, etc. Et dans tous ces temps-là, la patience qu'on a en réserve en nous va nous servir. Et Jacques dit, il faut que la patience nous serve et qu'on soit sans faillir en rien. C'est exigeant, hein ? Je pense que la patience, elle est porteuse d'une église, elle porte une église solide. Je pense que la patience permettra à l'église de grandir, de porter les charges que le Seigneur voudra mettre sur nous. J'ai conscience, en regardant mon passé, en regardant l'histoire de la vie, il faut la regarder, l'histoire. On dit toujours, il faut jamais regarder en arrière. Enfin, j'ai quand même un passé, je ne peux pas l'oublier. Je constate que des épreuves de la vie m'ont formé pour la suite de la vie. Mais c'est pareil pour vous, hein, c'est la même chose. Donc cette patience, ce fruit de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous aide aussi à produire cela, eh bien, dans l'Église, nous devons la valoriser, la patience. Il ne faut pas que nous ayons un discours, une prédication qui conduise le peuple de Dieu qui se convertit. On a des conversions, on a des baptêmes en préparation, 8 ou 9. Il ne faut pas que l'on conduise les gens en leur disant, vous verrez, avec le Seigneur, vous n'aurez jamais mal aux dents, vos cheveux repousseront, vous n'aurez pas de tribulation, vous n'aurez jamais de troubles, vous serez toujours guéri, vous vivrez 300 ans, etc. etc. Hein ? Jacques, il dit dans son épître, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, ah oui, ça peut arriver, hein. Il ne faut pas avoir peur de ça, qu'il prie. Et puis, si vraiment ça continue, et s'il est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens loignent d'huile au nom du Seigneur. Donc, c'est pour moi, c'est la réalité, c'est concret, c'est logique, ça repose vraiment sur la réalité de Dieu et la réalité de notre vie. Et cette qualité, pour moi, elle est demandée à l'Église dans sa mission. Il faut être patient quand on fait quelque chose pour Dieu, quand on évangélise, quand on s'occupe des gens. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience dans nos prières. Il faut beaucoup de patience dans la fidélité à l'Église. Jacques, il conclut en disant « Soyez patients jusqu'au 12 mars. » Amen. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il me trouble, ce Jacques. Vous avez déjà lu l'Épître ? Il y a quelques années en arrière, je la connaissais par cœur tellement je l'avais lue. Et je me souviens d'une anecdote. J'étais dans le train entre Paris et Rouen. Et puis je me la récitais intérieurement par cœur. Tellement elle me parlait, je la trouvais mais pratique, pleine de bon sens, pleine de concret. C'est notre vie. Regardez pas crête. Hein ? Alors on a besoin de tout cela. Et bien que le Seigneur nous aide. Amen. Que Dieu, dans sa bonté, nous aide à bien regarder nos épreuves comme des sujets d'encouragement parce que Dieu fait quelque chose pendant que nous sommes dans la prière et l'attente et la foi et la confiance. Dieu fait quelque chose. Il produit la patience. Et cette patience, elle va servir donc pour le temps, là, et puis elle va servir demain parce que peut-être que demain, vous allez être malheureux, malade, souffrant, mais là, vous aurez dans votre poche, dans votre cœur, vous aurez les armes de Dieu, les fruits du Saint-Esprit, vous aurez les qualités de Dieu, vous aurez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est magnifique. Amen. Eh bien, prions le Seigneur ensemble, parce que l'amour pour Dieu, l'amour pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants, ses parents, l'amour est patient. Il n'est pas irritable, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'amour est patient. Magnifique texte. Prions ensemble. Seigneur, que tes paroles nous servent d'appui, qu'elles nous portent dans les traversées de tempêtes, car tu ne nous as pas donné un esprit de faiblesse, de timidité, de crainte, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse, pour nous apprendre à compter sur toi, à t'attendre. Et s'il nous semblait parfois que tu tardes, eh bien nous voulons t'attendre toujours, parce que tu es toujours avec nous. Amen. Et quand nous entrerons dans ton royaume, dans ta maison, nous pourrons dire, jusqu'à ce jour, l'Éternel a été fidèle, car tu ne nous as jamais abandonnés, pas un seul jour, pas un instant. Tu es plus présent à notre vie que nous-mêmes. Nous oublions beaucoup de choses de nous. Tu n'oublies rien de nous. Tout est dans ta main. Merci pour ta patience envers nous. Amen. Et donne-nous cette patience. Produis-la en nous, la patience de Jésus-Christ. Que ton nom soit honoré, célébré ce matin, et nous voulons t'accueillir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.